Matthieu au chapitre 8. Et on va voir quelque chose de spécial ce soir. Vous savez, les évangiles, évidemment, ça nous présente la vie de Jésus. Ça nous présente la personne et l'œuvre de Jésus. On va voir quelque chose d'étonnant sur Jésus ce soir. Et je prends le mot étonnant parce que c'est signifié. Oui, c'est ça. C'est étonnant de voir que Jésus peut être étonné. OK? On va regarder ça ensemble. On va lire l'ensemble du texte. Matthieu 8, versets 1 à 15. On va lire tout le texte. Ça va nous donner la vue d'ensemble. Puis ensuite, on va procéder plus en détail. Donc, tout le monde est là. Matthieu 8, 1. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, puis avoir donné son sermon sur la montagne, là, pour vous rappeler, une grande foule le suivit. Et voici, un lépreux s'étant approché, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, « si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Puis Jésus dit, « Garde-toi d'en parler à personne, mais va te montrer au sacrificateur et présente l'offrande que Moïse a prescrite afin que cela leur serve de témoignage. » Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant, « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Jésus lui dit, « J'irai et je le guérirai. » Le centenier répondit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi, qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres et je dis à l'un, « Va » et il va, à l'autre, « Viens » et il vient. » Et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement. Et il dit à ceux qui le suivaient, « Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident, seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. » Mais les fils du royaume seront jetés dehors, dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Puis Jésus dit au centenier, « Va, qu'il te soit fait selon ta foi. » Et alors même, le serviteur fut guéri. Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre, dont il vit la belle-mère couchée et ayant la fièvre. Il toucha sa main, et la fièvre la quitta, puis... elle se leva et le servit. Alors, Matthieu 8, versets 1 à 15, qu'on vient de considérer ensemble. C'est un passage, c'est pas le plus connu dans son ensemble, malgré, je dirais que l'histoire avec le centenier, c'est peut-être un peu plus connu. Mais c'est, on commence ici une section, les chapitres 8 et 9 forment une section avec trois groupes de trois miracles. OK? Ça fait combien de miracles, ça? Pas trois. Je ne sais pas, j'ai demandé au plus jeune, puis il l'a eu. Fait que les autres, vous saviez tout bien avant, vous autres, hein? J'espère, là. Hey, hein? Oh, j'ai manqué de dire quelque chose, mais pauvre toi, je vais t'épargner. Ça serait une joke que les gens iraient, mais toi, t'as tout, c'est pas drôle. Qu'est-ce que je disais, donc? Je vais essayer de garder mon... Oui, c'est ça. Trois groupes de trois miracles. Trois fois trois, ça fait neuf. Hey, on fait des maths même à l'église. L'école n'était pas finie, vous pensiez, hein? Et donc, c'est tout un peu, ça suit le même pattern, OK? Donc, c'est une section qui présente des miracles de Jésus en groupe de trois. Et on voit tout le temps ensuite une réaction de la foule. OK? Comment ils réagissent à ce que Jésus a fait. Et c'est répété trois fois. Donc, tu sais, c'est comme trois miracles, réaction, trois miracles, réaction, trois miracles, réaction. Pourquoi Matthieu procède comme ça? Ben, naturellement, la question qui venait après avoir entendu la façon que Matthieu a mis l'ordre des choses dans son évangile, après qu'il ait tant parlé d'une façon si majestueuse et autoritaire, hein, comme ayant autorité dans ce mont sur la montagne, les gens, la question, la pensée qui pouvait venir, « Ouais, mais s'il sait bien parler, est-ce qu'il fait autant que ce qu'il dit? S'il parle avec tant d'autorité, est-ce qu'il a l'autorité dans ce qu'il fait. OK? Et c'est ça ici l'idée. Les miracles montrent l'autorité de Jésus dans le monde physique, dans le monde spirituel. Ça prouve qui il est. Que c'était pas juste des belles paroles qu'il disait étant le roi du royaume de Dieu, mais il l'a montré aussi par les miracles. D'ailleurs, les miracles, c'est toujours l'idée de la confirmation de qui Jésus est. Le miracle confirme le message et le messager. OK? Puis c'est même aussi avec le reste des miracles dans le Nouveau Testament. On regarde avec les apôtres quand ils faisaient des miracles. C'était pas pour faire un spectacle. C'était pour montrer qu'ils étaient bien les envoyés de Dieu. Et que l'évangile que Jésus avait commencé à répandre continuait à travers les apôtres. OK? C'est pour ça que les miracles sont souvent quelque chose de passager. Parce qu'après ça, lorsque il y a ça, Dieu établit sa parole. Puis il n'y a plus ce besoin-là d'authentification comme auparavant. Maintenant. Le monde n'est pas tant impressionné, surtout de nos jours, je dirais, par les belles paroles qu'on peut dire au sujet de Dieu, de Jésus-Christ et de la rédemption. OK? Bien que la parole est vivante et elle est puissante, c'est une épée à deux tranchants. OK? Mais aussi, les gens veulent voir la réalité de ces choses-là dans notre vie. Ah, c'est bien beau ce que tu dis, mais est-ce que vraiment ça te transforme? Est-ce que vraiment c'est un message transformateur? Est-ce que vraiment c'est un message d'espoir? Est-ce que toi, tu n'es pas désespéré dans des conditions désespérantes? OK? Donc, il y a cet aspect-là ici qu'on peut voir comme une première application. Et certainement, il y a une valeur à ça parce que ça nous dit que, comme dans 1 Pierre, on devrait toujours être prêt à défendre l'espérance qui est en nous et que notre conduite au milieu des païens devrait les amener à considérer Dieu le jour où il va les visiter. Okay? Donc, il y a un aspect important ici, mais il y a aussi un piège là-dedans. Okay? Et j'explique. Parce que bien que les miracles de Jésus dans les évangiles, le miracle de sa vie dans notre vie qui confirme l'Évangile. Hein, l'Évangile est confirmé dans notre vie lorsque la puissance de l'Évangile nous transforme. Quelqu'un qui passe de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. Je parlais ce matin avec Chris, puis c'est ça, on parlait de tout. On a une compréhension. Je ne sais pas si vous vous rappelez au tout début de votre salut. Moi, j'ai comme eu mon moment « Ah! » Mon « Ah! Ah! » moment, tu sais. Dans le sens que, man, tout fait du sens. Moi qui étais philosophique, essayais de comprendre le sens du monde. Quand j'ai été sauvé. Puis au tout début, là, c'est vraiment... Pas parce que j'ai tout fait des cours de théologie, puis après, là, j'ai eu... Non, au tout début, j'ai été sauvé. J'ai commencé à lire la Bible, puis j'en revenais pas comment tout faisait du sens. Ah! Ce que je comprenais pas, puis c'est le sens de la vie, puis pourquoi il y a tous ces problèmes-là dans le monde. Là, je comprenais pourquoi. C'est le péché. C'est parce qu'on a rejeté Dieu. Puis, comprenez-vous? Et pourquoi je dis tout ça? Parce que ça a une bonne valeur pour confirmer l'Évangile quand on a cette puissance transformatrice dans notre vie. Mais il n'en reste pas moins que c'est par l'Évangile que l'Esprit convainc. Le Saint-Esprit utilise l'Évangile pour convaincre les cœurs. J'ai beau avoir tout le témoignage de ma vie. Les gens ont besoin d'entendre la bonne nouvelle. Ils ont besoin d'entendre le fait de la vie de Christ, sa mort, son ensevelissement, sa résurrection. L'œuvre parfaite de Christ, elle doit être proclamée. OK? L'évangile, style de vie, c'est pas suffisant. Ça, c'est pour confirmer. Ça confirme le message, mais ça remplace pas le message. C'est là que je dis qu'il peut y avoir un piège. OK? Autrement dit, on peut pas remplacer la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Hein? Je n'ai pas honte de l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut. On ne peut pas le remplacer par notre conduite au milieu des païens qui étant aussi, qui va avoir une influence. Okay? Tu ne peux pas remplacer un avec l'autre. Les deux se complètent, mais tu ne peux pas remplacer un par l'autre. Parce que l'Évangile, c'est l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu que ce même Esprit utilise pour accomplir l'œuvre précise de la conviction. Et moi, c'est quelque chose qui m'émerveille toujours. C'est pour ça que j'aime les vidéos de Ray Comfort. J'aime aussi ce que je vous ai partagé. De voir quelqu'un qui entend l'Évangile, puis tu le vois changer de face. Ça ne veut pas dire qu'il est tout le temps sauvé, mais la conviction de la parole de Dieu, quand la personne, la conscience, hein, parce que la parole de Dieu adresse la conscience, puis là, tu vois la personne, wow, j'avais pas parlé. Puis on est comme, on se retrouve comme tout seul face à la vérité de Dieu, la vérité ultime de qui Dieu est, puis qu'on est face à Dieu, puis wow, tu sais. Bon, après ça, il y a différentes réactions. Moi, je me dis tout le temps, il va-tu être sauvé celle-là? Puis là, j'étais comme, ah, tu sais. Bon, c'est une vidéo, là, c'est probablement. Mais ils disent, hey, il y a beaucoup de gens qui ont été sauvés comme ça. Ou des gens qui disent, il y en a un qui, j'ai une vidéo, il dit, je veux des livres, donnez-moi beaucoup de livres là-dessus, je veux savoir plus là-dessus. Ça, c'est pas pire quelqu'un qui dit ça, ça veut dire que je pense que le Seigneur est en train de faire un travail dans son cœur, n'est-ce pas? On n'est pas sauvé par 10 000 livres, mais quelqu'un qui en demande, ça veut dire qu'il veut, il cherche. Donc, c'est très encourageant. Maintenant, je vais beaucoup me concentrer sur le miracle du centenier, du serviteur du centenier, mais je veux dire quelques mots sur les versets 1 à 4 d'abord. Parce que le grand roi ici qui vient de parler comme ayant autorité dans ce mont sur la montagne, on le voit descendre de la montagne, et c'est drôle, il descend de la montagne ici, c'est comme, on voit l'humilité, parce que vers qui il va? Vers un lépreux. Il nous dit, ah, c'est le fun, il guérit un lépreux. Faut penser, là, c'était les gens les plus méprisés de la société. Là. Personne ne s'occupait d'un lépreux. En fait, tout le monde fuyait les lépreux. Okay? Il ne voulait rien savoir. Puis là, vous connaissez ce que la loi disait. Hein? Puis c'était par mesure d'hygiène. On parle avec le coronavirus, là, les distanciations sociales. Il y avait ça dans la Bible. Il se promenait, là, puis il disait, il criait, impur, impur, pour que, tu sais, ça se voyait sur la face d'une maladie qui est visible, mais pour être sûr que tout le monde comprenne, mettons qu'il était, il passait dans un village ou quelque chose, il criait ça fort pour que tout le monde sache que tu t'approches pas du lépreux. OK? Je sais pas si c'était 2 mètres la distance à l'époque, là. Il fallait que je regarde dans la loi.
Il s'approchait trop, mais il fallait qu'il l'appuie.
Ouais, en plus, c'est ça. Ah non, c'était pas. La vie de lépreux, c'était pas une vie. Il dit s'il l'approchait trop, il fallait qu'il l'appuie. Non, non, c'est ça, c'était pas. C'était pas Jojo, là, être un lépreux à l'époque. Mais Jésus, ce grand roi qui a fait le sermon sur la montagne et qui parle avec autorité, il va vers. Il commence comme ça. Avec les gens, les sujets les plus bas du royaume, si vous voulez. Hein, n'est-ce pas une illustration que le plus grand dans le royaume des cieux va être le plus petit, puis le plus petit va être le plus grand. Il prend quelqu'un qui est complètement méprisé et tout ça. Et non seulement il le guérit, mais on voit la foi de cet homme. Parce que ça dit, et voici un lépreux s'étant approché, se prosterna devant lui et dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Donc, c'est une expression de foi ici, là, OK? Et je pense, il faut voir ici, il y a plus que juste, ah, je vais voir le docteur, puis ils vont me guérir. Non, il reconnaissait que Jésus, à qui il parlait, c'était pas n'importe qui, là. Tu vas pas voir un docteur, puis tu dis, si tu veux, tu peux me rendre pur de même, là, tu sais. Il voyait que l'être qui était là devant lui n'était pas un simple être humain. On ne sait pas peut-être à quel point il comprenait qu'il était le Messie, puis tout ça, mais on voit l'expression de sa foi. Et Jésus a répondu à ça. Jésus étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux! » Amen. Hein? C'est soit pur et aussitôt il fut purifié de sa lèpre. Boum! Aussitôt. C'est un miracle. Et ici, on voit Jésus, dans le fond, qui va vers ceux-là, non seulement qui sont méprisés, mais grandement dans le besoin. Je veux dire, quand tu as de la lèpre, là, t'es désespéré. Là. Je veux dire, t'as pas d'espoir en dehors d'un miracle. OK? Fait qu'il va voir ceux-là. N'est-ce pas une belle illustration? Parce qu'on sait, hein, la lèpre, c'est une image du péché, comment ça nous affecte, comment ça, on est impur, puis tout ça. N'est-ce pas une belle illustration ici, de façon imagée, d'une réalité spirituelle, quand Jésus a dit, je suis pas venu pour guérir ceux qui ont besoin. Je suis venu guérir ceux qui ont... Attends, comment il dit ça? Je l'ai écrit, je vais le lire, ça va aller mieux. Je ne suis pas venu guérir ceux qui sont en santé, mais ceux qui sont malades. Et effectivement, cet homme, c'était vrai dans le domaine physique, mais aussi, c'était un pécheur qui avait besoin de la grâce de Dieu. Il a tout trouvé ça en Jésus. Donc, c'est ça pour cet homme-là. Mais remarquez aussi au verset 9, le centenier. Car moi, ici, c'est le centenier qui parle. Il dit, car moi, je suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un, va, et à l'autre, va. Viens, et il vient, et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. Savez-vous c'est quoi le sens des paroles que le centenier ici il dit? Il reconnaît l'autorité de Jésus parce que il dit, gars, moi, je suis en autorité, puis je dis à un, fais-le. Fait qu'il dit, toi aussi, tu es en autorité. Si tu dis un mot, parce qu'il dit ici, c'est des mots, qu'il dit, va, puis OK. Toi, tu dis un mot, tu as l'autorité de guérir. Il fait une comparaison. Du supérieur au moindre. Moi, je suis moindre, là. Tu sais, j'ai mes serviteurs, puis ils font ce que je lui dis. Toi, si tu dis un mot, ton Père céleste, il va faire exactement ce que tu demandes. Et donc, on voit qu'il y avait une compréhension de qui est ce Jésus, déjà lui aussi. Okay? Non seulement le lépreux, mais aussi ce centenier romain, qui n'était pas non plus le plus populaire en Israël. Okay? On croit que c'est quelqu'un qui était aimé de la nation d'Israël, mais les Romains, juste du fait d'être Romains, puis en plus d'être dans l'armée romaine, c'était pas la formule gagnante, mettons, pour gagner le concours de popularité auprès d'Israël. Maintenant, dans le verset 2 puis dans le verset 8, on voit que les deux hommes bénéficient de la grâce de Dieu. OK? On l'a vu dans le verset 3, Jésus il dit « Je le veux, sois pur. » Puis là, aussitôt, il a été purifié. Puis les deux hommes qui ont bénéficié de la grâce de Dieu ont exprimé leur foi. Donc, c'est ça, c'était bien le verset 2. Il dit, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Puis l'homme, il dit, le centenier, il dit, je suis pas digne, dis seulement un mot. OK? Donc, les deux ont exprimé clairement leur foi en Jésus-Christ. Est-ce qu'ils comprenaient tout qui était Jésus? Non, mais ils savaient que c'était quelqu'un qui avait de l'autorité pour changer les choses de façon extraordinaire, qui pouvait faire des miracles. OK? C'est important à comprendre. OK? Mais il y a quelque chose d'important à comprendre avec notre lépreux qui commence notre texte, c'est quand on compare, on n'a pas besoin d'aller voir là, mais quand on compare le verset 4 avec ce qui est donné dans Marc, quand Jésus lui dit « Garde-toi d'en parler à personne, mais va te montrer au sacrificateur et présente là ton offrande que Moïse t'a prescrite afin que cela leur serve de témoignage. » Vous savez où est-ce que Marc nous apprend? Peut-être vous en doutez, il n'a pas écouté. Ça, c'était pas la première fois. Il est allé le dire à tout le monde. Moi, je pense que c'était pas par rébellion. Il était juste tellement content qu'il pouvait pas s'en retenir. Parce que les gens avaient demandé, c'est quoi qui t'est arrivé là? Hey, je vais te le dire ce qui est arrivé là. Comprenez comment des fois, tu sais, il a pas pu s'en retenir. Peut-être qu'il est dans le club de gens comme moi qui, des fois, ils parlent trop quand il y aurait du ster. Mais bon, c'est ce qui est arrivé à ce gars-là. Et il a publié la nouvelle comme ça. Mais pourquoi Jésus l'interdisait? Parce que le problème, il y a plus qu'une raison, mais là, ici, quelque chose que je veux amener, c'est qu'en faisant ça, okay, en publiant comme ça la renommée de Jésus, il a détourné l'attention du peuple, okay, en partageant ça auprès du peuple, vers le spectacle de miracles au détriment du message puis du messager, Jésus. Okay? C'est ça le problème. Les gens ont vu du spectacle plus que s'arrêter au message. Jésus, c'était pas juste un faiseur de miracles. Jésus, c'était Dieu fait homme. Puis les miracles, il fallait juste le confirmer, mais c'était ça ici qui est arrivé. Puis, c'est quoi, dans notre enthousiasme spirituel, on peut des fois arriver à nuire à l'œuvre et au message de Dieu lorsque l'attention est sur la méthode, sur les résultats et les choses semblables, et non sur le message et le messager divin, le Saint-Esprit, Jésus-Christ, Dieu qui a envoyé son Fils. Et je pense que c'est ce qu'on a fait avec ce qu'on appelle l'américanisation de l'Évangile. Il y a un vidéo que Gabriel m'a partagé. Je pense aussi que je pourrais vous l'envoyer. Je ne l'ai pas écouté, mais Gabriel m'a dit que c'était bon. C'est The American Gospel. Est-ce que quelqu'un a vu ça, cette vidéo-là? C'est quand même long. Je pense qu'il se met à 2 heures. Mais bon, même. En tout cas, c'est pour ça que je ne l'ai pas encore écouté. Je n'ai pas trouvé 2 heures pour écouter ça, mais The American Gospel, dans le fond, c'est comment le phénomène d'avoir rendu l'Évangile selon la culture américaine de consommation, puis tout ça, puis perdre l'essence même de l'Évangile, l'essence de l'Évangile. Puis dans le fond, c'est des gens qui étaient... Moi, j'ai écouté juste un peu le début, peut-être 10 minutes. J'avais pas plus de temps que ça, j'ai regardé un peu, puis... Les gens qui disent... Tu sais, dans mon église, là, être un chrétien, dans le fond, c'était tu fais de ton mieux, tu gardes tous les standards comme tu es supposé, puis tu es un bon chrétien. Puis j'ai passé à côté de l'essentiel de l'Évangile, c'est Christ en moi, l'espérance de la gloire. L'Évangile, c'est d'être réconcilié avec Dieu, puis tout le reste, c'est le fruit. Fait que l'américanisation de l'Évangile, c'est quoi? C'est mettre l'accent sur la méthode, puis les résultats, puis passer à côté du message, puis du messager. Exactement la même chose qui est arrivée ici. Et ça peut être impressionnant, l'américanisation de l'Évangile. Ça peut être impressionnant pour les hommes, savez-vous quoi? je pense pas que je vous l'apprends, mais ça l'impressionne pas Dieu. Les résultats qu'on peut avoir ou les méthodes qu'on peut avoir. Mais justement, qu'est-ce qui impressionne Dieu? On l'a vu dans le texte au verset 10. Après avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement. Jésus a été étonné. C'est un peu spécial. C'est peut-être même dur à comprendre le fait que Jésus puisse être étonné, n'est-ce pas? Parce que ça présuppose l'idée d'être surpris. Non, étais-tu vraiment omniscient? Savais-tu ça d'avance? La réponse est dans le mot qui est utilisé, le mot grec qui est utilisé. C'est rien que je vous le dis, je vais vous dire un mot qui veut dire rien pour... Mais le mot qui est utilisé réfère à de l'admiration, de l'émerveillement, OK? De la fascination, c'est ça que ça communique. C'est-à-dire que Jésus n'était pas tant surpris, « Oh, j'avais pas vu ça venir! » Tant qu'il se réjouissait de voir une telle foi. « Wow! Ça, c'est de la foi! » C'était plus ça l'idée, OK? Et pour ça qu'il dit, « J'ai même pas vu ça en Israël! » « Wow! De quelqu'un qui est du monde des païens, qui exprime une telle foi, ça, c'est quelque chose! » OK? Puis il parle même après ça d'Abraham. T'sais, il parle des patriarches, puis il dit, « Il y a des gens comme ça qui vont être assis. » Il fait toute une déclaration, parce que dans le fond, il dit, aux Juifs, il faut comprendre ici, là, les Juifs étaient très nationalistes, n'étaient pas nécessairement très favorables aux Goïm. Les Goïms, c'est nous autres, ça, les païens, ceux qui ne sont pas d'Israël. Il n'y avait pas une très haute estime d'eux autres, puis il n'y avait pas une très grande appréciation de ce qu'ils pouvaient être spirituellement, pour mettre dans les termes les plus polis et les plus beaux ce soir, parce que ça peut être pas mal plus beau que ça. Mais, Jésus ici, on sait, hein, Matthieu, c'est même, on est au commencement de Matthieu, Matthieu nous parle de l'Église, puis nous parle, tu sais, Jésus allait fonder un organisme vivant basé sur son œuvre et qui n'allait pas juste être avec les Juifs, qui était pour toutes les nations de la terre. Et ici, on a un commencement, ici, un petit clin d'œil de la part de Jésus. L'œuvre que je vais bâtir, ça va être beaucoup plus grand que ce qu'on voit juste en Israël, ça va aller jusqu'aux extrémités de la terre. Il y a des gens, il dit ici, de l'Orient et de l'Occident qui vont être assis à table avec les patriarches. Et c'est effectivement ce que Dieu fait avec l'Église. C'est pour ça qu'on se réjouit. Quand on est un enfant de Dieu, on a un amour spécial pour Israël, c'est nos racines. Puis j'aime ça, découvrir nos racines juives, parce que des fois, savez-vous que c'était un scandale un peu au début de l'Église? Les Juifs étaient outrés, ils disaient, hey, on perd toute la saveur juive, notre Messie est juif, les Écritures sont juives, les patriarches sont... Nos racines sont toutes juives, sont toutes en train de paganiser ça, puis à une certaine mesure, il y avait raison, puis à une certaine mesure, c'était normal aussi. C'est-à-dire, c'était la réunion de deux choses bien différentes. Mais bon, fait qu'on a ça ici qui est amené. Et maintenant, je veux juste qu'on voit, surtout avec les versets 5 à 13, puis après ça, une autre illustration dans Marc, mais on va voir les deux façons qu'on peut impressionner Dieu. Pas compris, il y a juste deux façons qu'on peut impressionner Dieu. Okay? Voici la première. On impressionne Dieu par l'audace de la foi. On impressionne Dieu par l'audace de la foi. Et ça, on a déjà vu les versets 5 à 13, l'exemple du centenier. Puis au verset 8, je l'ai souligné, il dit « Dis seulement un mot! » Et je pense que c'est quand même assez audacieux comme foi. « Dis seulement un mot, là, puis c'est tout réglé. » On a M. Cagny qui dit ça souvent. Mais est-ce qu'on le croit vraiment? Puis, il y a la foi de dire, si tu dis juste un mot, toi, que créer l'univers, tu es capable de tout régler ça. Ça l'exprime une confiance en celui à qui il parle. Et cette parole du centenier, je pense que d'abord, ça l'exprime une foi dans l'intercession. Il intercédait pour quelqu'un d'autre. Si toi, tu fais quelque chose, tu vas régler le problème de mon serviteur. On voit vraiment ici, c'est la foi de la prière d'intercession. Parce qu'il voyait pas le besoin de Jésus-Christ là, de se rendre sur place puis de faire quelque chose un peu comme Élie a fait là, avec le petit gars qui est mort puis de la veuve puis là pour le ressusciter. Pas besoin de faire toute d'affaires de même. Dis juste un mot. Le miracle, la guérison pouvait être accompli. Mais il y a plus aussi. Parce que quand il dit viens pas, ok, il faut comprendre que pourquoi il dit ça. Vous savez que, bon, il y a certains fondements dans la loi, mais la tradition juive, qui poussait toujours la loi plus loin que ce que c'était originalement, mais la tradition juive disait que lorsqu'on entrait dans la maison d'un païen, on devenait rituellement impur. C'est pour ça que les juifs ne voulaient pas rentrer dans le prétoire d'Hérode, la nuit où Jésus a été livré. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas être rituellement impur. Quelle ironie, parce qu'il était moralement impur au plus haut point, il allait livrer le Fils de Dieu. Mais bon, il ne voulait pas être rituellement impur. Bon, en tout cas, bonne illustration de Matthieu 23-23, là, les choses mineures de la loi versus les majeures, mais bon. Mais juste l'idée ici, c'est que c'était la compréhension. Un juif qui rentre chez un païen, il est rendu rituellement impur. Fait que là, il n'aurait pas pu aller à la synagogue le jour du sabbat. OK, bon, toutes des choses. Il aurait fallu qu'il se purifie, là, là, là. OK, bon. Donc, c'était pas mal compliqué. Tu sais, c'était du trouble pour un juif de faire ça. Donc, le centenier, ça nous dit que le centenier aussi, il était... Il connaissait la nation juive. Il avait une relation avec la nation juive. Et il connaissait cette tradition-là de toute évidence parce qu'il se sentait indigne de donner tout ce trouble-là à Jésus. Ah hey, non, hey, viens pas chez nous puis rentre pas rituellement impur. C'est ça l'idée de ce qu'il communique ici. Donne-nous pas tout ce trouble-là pour moi. Fait que non seulement on voit qu'il y a de la foi, mais aussi on voit de l'humilité. Puis une reconnaissance de qui Jésus est. Oh, oh, oh. Hey, je veux pas donner un tel trouble à quelqu'un comme toi. Voyez-vous? On voit là-dedans que cet homme avait la foi de croire que Jésus est celui qu'il disait être. Je ne sais pas s'il avait entendu le sermon sur la montagne, s'il en avait entendu parler. Mais il connaissait quelque chose sur Jésus assez pour savoir que Jésus était plus qu'un simple homme. Et qu'il avait la parole de vie puis le souffle de vie. Pour prendre quelqu'un de malade, puis juste dire un mot, puis régler ça. Il n'y a pas personne que... Vous essayerez, là. Vous avez toute une prière, vous êtes capable de dire un mot, puis la situation... De toute façon, ça ne sera pas vous qui le faites. Ça va vous dire un mot à Dieu, puis pouf, Dieu le fait de même. Waouh, j'ai hâte de voir ça. Mais Jésus lui-même, il n'y a pas besoin. OK? Et il reconnaissait, il y avait la foi de cet homme qui s'exprimait comme ça. OK? De guérir son serviteur comme ça. Ça, c'est une foi qui impressionne Dieu. C'est une foi audacieuse. Une foi qui croit vraiment qui Dieu est, pour qui il dit, là, il dit être. OK? Parce que selon toutes les vraisemblances, la logique, les circonstances qui pouvaient sembler contre, il a quand même fait... Il n'a pas regardé à tout ce qu'il pouvait avoir autour, à tout ce qui pouvait arriver. Il a regardé à Dieu et il a fait confiance que Dieu était capable de le faire. Lors de la Deuxième Guerre mondiale, vous savez, les Allemands faisaient, dans beaucoup, à travers toute l'Europe, des blitz de bombardement. Okay? Ils passaient une ville, puis là, brouh, ils bombardaient, puis là, tu peux être couché, là, puis là, tu te réveilles, puis le building est en flammes ou tout ça. Fait que lors d'une de ces événements-là, il y avait un papa avec son petit gars, qui là, bon, leur building, leur bâtiment est en flammes, ils fuyaient, puis les gens, c'était prévu parce qu'ils s'attendaient d'avoir des choses de même, fait qu'il avait fait des trous pour lesquels, dans lesquels se cacher dedans, OK? Pour est-ce que les gens pouvaient aller se réfugier pour être à l'abri des bombes. Et donc, le père saute dans ce trou-là, puis là, il dit à son fils, viens-t'en, à son petit gars qui était pas très vieux, peut-être à peu près l'âge de Philippe. Mais là, le petit gars, il dit, papa, je te vois pas. Parce que c'est le soir, puis là, mais le père, lui, avec... le feu, le rouge du feu, il voyait la silhouette de son fils, puis il dit, « Ouais, mais moi, je te vois, saute, vas-y, je vais t'attraper. » Puis le petit gars, il a sauté, puis son père l'a attrapé. D'abord, c'est une illustration, ça. C'est, nous, avec Dieu, la foi nous permet de faire face à nos peurs, aux pires circonstances, pas parce qu'on voit puis on comprend tout, mais parce qu'on est vu par Dieu. Pas parce qu'on a toutes les réponses à ce qui nous arrive, mais parce qu'on est connu par le Dieu qui est au-dessus de toutes les circonstances. C'est le fait d'être vu, d'être connu par Dieu. C'est là notre sécurité. Des fois, on est comme le petit gars, puis on saute dans le vide. Mais on sait que Dieu est là, puis il nous voit, puis il va nous attraper. C'est ça, la foi. C'est ça, toute l'espérance et la foi de se centenier devant l'impossible. Il savait que Dieu allait être au rendez-vous, que Jésus était capable de faire selon ce qu'il disait. C'est pour ça que Jésus dit à l'homme, au verset 13, « Qu'il te soit fait selon ta foi. » Et c'est cette foi du centenier qui a surmonté les barrières sociales, les barrières de la logique, les barrières humaines, du doute et de la peur, parce qu'il devait avoir un bel ensemble de tout ça. OK? Parce que c'était quand même quelque chose pour un païen comme ça de s'adresser à un rabbin juif en autorité, là. OK? Mais la foi lui a fait regarder au-delà de tous ces obstacles. Et je pense que c'est une belle illustration, parce qu'il va avoir une pression sociale, un stigma social, mais c'est une belle illustration de la foi qui triomphe, la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. 1 Jean 5, 4. Maintenant, gardez votre place dans Matthieu, mais on va aller faire une petite incursion dans Proverbe 28. Je veux amener une autre application ici. Proverbe 28, où est-ce qu'on peut lire? Comme dans beaucoup de proverbes, un principe spirituel, une loi spirituelle. Et je veux qu'on tire le son de ça. Proverbe 28, 5. Proverbe 28, 5. Les hommes livrés au mal ne comprennent pas ce qui est juste, mais ceux qui cherchent l'Éternel comprennent tout. Puis ici, il ne faut pas comprendre livré au mal nécessairement par faire des grosses choses qui peuvent être, ça peut être ça, là. Je veux dire, faire des choses qui sont de toute évidence mauvaises et tout ça. Mais des fois, c'est juste de ne pas considérer Dieu, de faire selon mes propres voies. C'est se livrer au mal aussi. OK? C'est juste d'être content dans l'état d'incrédulité, d'apathie et d'indifférence. Puis de rester là-dedans. Et ça peut être ça ici, se livrer au mal, comme ça peut être la rébellion, les choses plus ouvertes, mais c'est tout ça qui est inclus. Et qu'est-ce qu'on apprend de ça? C'est-à-dire que quand je suis dans cet état-là, je comprends rien. C'est-à-dire, ils ne comprennent pas ce qui est juste, mais il y a un contraste, comme dans beaucoup de proverbes, celui qui cherche l'Éternel comprend tout. Là, ça ne veut pas dire qu'on devient omniscient, là. Mais tout ce qu'il y a à comprendre et qu'il a besoin de comprendre, il va le comprendre. Parce que Dieu va y montrer. OK? Il comprend tout. Dans les proverbes, des fois, il ne faut pas mettre plus que ce qu'il y a. Là, c'est ça. Là. C'est pas que je cherche l'Éternel, je vais avoir toutes les réponses à toutes mes questions. Non, mais les questions que tu as besoin d'avoir des réponses, tu vas toutes les avoir. C'est ça l'idée. Là. OK? C'est pas comme si, comme par magie, je cherche l'Éternel, puis là, hey, j'ai plus jamais de questions dans ma vie. Là. Ça, c'est... Mais je vais comprendre tout ce que j'ai à comprendre, puis tu sais, le chemin va être clair. OK? Et ça, c'est la réalité de la puissance de la foi. Parce que, OK, chercher l'Éternel, c'est pas tant l'idée d'une position achevée. Voici, moi, je suis quelqu'un qui cherche l'Éternel, c'est ça ma vie. Non, c'est plus une direction de notre vie. Non, on sait que des fois, on titube, puis on chancelle, puis des fois, on cherche mieux que d'autres, des fois, on est plus égocentrique, on a des doutes, on a des peurs. Mais l'idée, dans ma vie, Dieu, je te cherche. La direction de ma vie, c'est je veux te découvrir de plus en plus. J'ai soif de toi, comme dans une terre desséchée, Seigneur. C'est toi que je veux. Donc, c'est pas tant la description d'un état statique que d'une direction dynamique. OK? Et quand on cherche l'Éternel de même, on va comprendre ce qu'on a à comprendre. Et on va vivre la vie que Dieu veut qu'on vive, parce que Jésus dit, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Si on entend la voix de Dieu, puis qu'il nous dirige, on comprend tout ce qu'on a à comprendre. C'est ça la marge de la foi. Maintenant, on va aller mettre ça en contexte. Et ça, c'est une foi qui plaît à Dieu. Et c'est comme ça qu'on est appelé à marcher. Maintenant, on va aller voir un contraste. Je vous ai dit de garder votre place dans Matthieu, mais on va y aller à toute fin du message, mais gardez quand même votre place. Mais là, je veux qu'on aille dans Marc, au chapitre 6. Marc 6. Le deuxième point, il est plus court que le premier. Ça donne bien parce qu'il est plus négatif. Le premier était positif. Le deuxième, c'est l'incrédulité impressionne Dieu par son arrogance. Vous souvenez, l'arrogance de l'incrédulité impressionne Dieu. Wow, c'est arrogant de l'incrédulité. On va aller voir dans un texte ici, dans Marc, au chapitre 6, les 6 premiers versets. Lisons ça d'abord. Marc 6, 1 à 6. Jésus, parti de là, se rendit dans sa patrie, okay, là où il est né. Ses disciples le suivirent. Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient, d'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? Il essaie de comprendre, logiquement. N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Jose, de Jude et de Simon? Et ses sœurs ne sont-elles pas parmi nous? Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Et il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Et, remarquez, il s'étonnait de leur incrédulité. Savez-vous que le mot « étonner » ici, ou « il s'étonnait », c'est le même mot. C'est pour ça qu'on est allé voir dans Marc. C'est le même mot que dans Matthieu. Quand Jésus était étonné, le mot qui est utilisé, était étonné de la foi du centenier, mais ici, il était étonné de la même façon, même mot, de l'incrédulité des gens de sa patrie, là, de Nazareth. Et disons que ça l'impressionne de façon négative. L'arrogance, la dureté du cœur, lui, ça faisait un « wow ». C'est comme si... Encore, c'est pas qu'il était surpris puis il apprenait quelque chose, mais il dit « waouh, à quel point! » Ok, c'est ça l'idée d'étonnement. Maintenant, c'est vrai que la profondeur de la dureté du cœur humain peut être assez impressionnante. La Bible dit que c'est un tel point qu'on peut même pas comprendre. Hein? Comment le cœur, Jérémie 17,9, comment le cœur humain est dur, désespérément malin. Mais le pire, dans le verset 5, on a appris que Jésus, à cause de ça, il n'a pas pu faire de miracles. Pas pu faire beaucoup de miracles, c'est-à-dire, il en a fait juste quelques-uns. Ça l'empêchait Dieu d'agir, là même où ils l'ont vu grandir, ils n'ont pas pu voir ce que Jésus, non seulement ce qu'il était, mais ça s'est confirmé par ce qu'il faisait. Et ça, c'est encore plus dur à comprendre parce que ça nous fait poser la question, pourquoi se donner toute cette misère et même persister dans un même entêtement quand le désir profond de Dieu, c'est de nous bénir puis de nous aider? Pensez-y. Quand on est incrédule, il y a une arrogance face au Dieu qui dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vais vous donner du repos. » Est-ce qu'on croit ça vraiment? Pourquoi on se donne tant de la misère à se fatiguer si on peut trouver le repos dans notre Seigneur? Pourquoi est-ce que Dieu dit « Je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté. » Pourquoi est-ce que on pense que Dieu nous a abandonnés quand il nous arrive des difficultés? Ou quand Dieu dit « Invoque-moi, je te répondrai, je vais te montrer des choses grandes, des choses cachées que tu ne connais pas. » Pourquoi qu'on hésite à prier dans ce temps-là? Ou pourquoi on garde nos soucis quand il dit qu'on peut se décharger sur lui parce que lui-même prend soin de nous? C'est là qu'on voit, on n'est pas très différent des gens de Nazareth. Où est-ce qu'on est incrédule puis on empêche Dieu d'agir par notre incrédulité? C'est lui qui nous dit venir à lui, c'est lui qui dit que toutes ces choses-là, il va s'en occuper. Puis on n'y va pas. Maintenant, on peut se poser la question, puis là, je dis, on ne va pas de façon absolue, j'espère. Mais on n'y va pas comme on devrait, on n'y va pas à la mesure que Dieu est capable de pourvoir. On peut se poser la question, quelle est mon attitude, ma réponse à la bonté de Dieu qui m'invite comme ça à aller avec lui, avec toutes ces choses-là? Avec mes fardeaux, avec mes soucis, avec les prières que je peux avoir? Est-ce que je prends pour acquis la bonté de Dieu? Est-ce que quand j'en fais pas, ben, un cas? Ben oui, c'est normal, Dieu est bon, c'est ça qui est. Ou est-ce que vraiment, waouh, ça m'émerveille, ça m'humilie comme ça devrait le faire? Si ce n'est pas le cas, je suis tombé dans le piège de l'arrogance de l'humilité. Et, mauvaise nouvelle, à ce moment-là, on est tous tombés dans le piège. C'est la dureté du cœur humain. Et c'est ça qui empêche Dieu d'agir, d'exercer sa grâce, sa bonté dans nos vies comme il voudrait. Et ça, mes amis, c'est pas mal l'apogée de la folie, d'avoir un Dieu si grand, si bon, si généreux, puis de l'empêcher de dire « Non, Dieu, tu ne peux pas faire ça. » Puis c'est Dieu qui veut, là, puis qui est capable. Puis on dit non. Pensez-y, là, l'incrédulité, ça n'a aucun bon sens. C'est de l'arrogance face à un Dieu si bon que les bras ouverts pour faire tout ça. OK? Je veux juste qu'on réfléchisse sur comment c'est juste normal dans notre vie. Je veux pas... c'est normal dans notre vie qu'on fasse confiance à Dieu à cause de qui Dieu est. Et ça... Ça n'a aucun bon sens, ça n'a aucune logique de ne pas se confier en un Dieu comme ça. Et je pense qu'on a vu dans l'exemple du centenier, entre autres, ce soir, un exemple de ça. Mais j'aimerais qu'on aille voir, j'ai dit, on est dans le côté négatif, une illustration de ça dans Marc. On est dans Marc, mais allons voir au verset 45. Jésus qui marche sur les eaux. On va lire ce passage familier en remarquant un détail. Alors, on va juste lire les deux premiers versets, parce que ça nous donne l'idée, vous connaissez l'histoire. Donc, Marc 6, 45, « Aussitôt après, il obligea ses disciples à monter dans la barque et à passer avec lui de l'autre côté, vers Bethsaïda, pendant que lui-même se renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il s'en alla sur la montagne pour prier. » Puis là, le soir étant venu, il y a la tempête, vous connaissez l'histoire. Mais tout ça a commencé, Jésus les a obligés. Mais remarquez au verset 52. On commence au verset 51. Puis il monta vers eux dans la barque, et le vent cessa, ils furent en eux-mêmes tout stupéfaits et remplis d'étonnement, car ils n'avaient pas compris le miracle des pains, parce que leur cœur était comment? Endurci. Parce qu'ils ne s'étaient pas exercés à la foi. Et mes amis, c'est immanquable. À toutes les fois que je ne fais pas confiance à Dieu, je m'endurcis. Ça devient plus dur de faire confiance à Dieu. Mais l'inverse est aussi vrai. Plus je fais confiance à Dieu, plus je me rends... Dieu me rencontre toujours quand je fais confiance. Ça devient plus facile de faire confiance. Pour ça, quand les gens disent « Wow, Georges Muller, c'était-tu un superman de la foi? » Non, c'est juste quelqu'un qui est habitué à faire confiance à Dieu. Puis Dieu ne l'a jamais laissé tomber. C'était pas quelqu'un qui était extraordinaire, c'est son Dieu qui était extraordinaire. Il s'est juste à donner qu'il donnait l'occasion à Dieu d'être extraordinaire dans sa vie. C'est ça le secret d'un Georges Muller. C'est un homme de la même nature que nous. Il n'y a rien de spécial avec Georges Muller. Mais sa foi s'accrochait à ce qu'il connaissait Dieu, puis Dieu, puis c'était son point, hein, parce qu'il était tanné d'entendre les chrétiens dire « Ah, mais là, j'ai ci, puis j'ai ça, puis... » Il disait « Ben, Dieu va s'occuper de toi, fais-y confiance. » Puis toute son histoire, c'était pour prouver que Dieu était digne de confiance. Puis quand on faisait confiance, Dieu s'occupait de son peuple. Wow! Et donc, non seulement à toutes les fois qu'on fait pas confiance à Dieu, notre cœur s'endurcit, mais notre intelligence aussi s'obscurcit. Il ne comprenait pas. Il y a des choses, je vous ai déjà dit, il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre assis sur un banc d'église. Il faut qu'on les apprenne dans la réalité de la vie où est-ce que j'ai fait confiance à Dieu. Puis, c'est vrai que Dieu est bon, puis Dieu est fidèle, puis il nous rencontre là où est-ce qu'on est. Puis, j'y ai fait confiance, sais-tu quoi? Puis il était drette là au moment que j'avais besoin, puis là je le sais. On ne peut pas apprendre ça en théorie. Faut qu'on fasse confiance à Dieu pour ça. Faut que les enfants l'apprennent pour eux-mêmes. Ça, c'est un grand défi de la vie parentale. C'est juste par la prière puis d'invoquer Dieu que ça peut se passer. Parce qu'on peut pas faire ça pour nos enfants. OK, vas-y, fais confiance à Dieu. Faut amener le petit oiseau, faut qu'on laisse apprendre à voler de ses propres ailes. Faut pas que tu laisses trop de bonheur parce que je l'ai vu cette semaine. J'ai tué des petits oiseaux. Les enfants, écoutez pas ça, c'est une histoire d'horreur qui s'en vient. On avait des oiseaux qui étaient là, un nid d'oiseaux. Puis tu sais, bon, on a dit, les oiseaux, ils étaient juste proches. Je me dis, on va se débarrasser de ça, mais je savais pas. On aurait vu qu'on s'en débarrasse plutôt, mais quand j'ai poussé le nid d'oiseaux, il y avait quatre petits oisillons. Mais tu peux plus les... Ils sont tous morts. Puis c'était le soir, je pouvais plus les trouver, le lendemain. Je veux pas que vous fassiez des cauchemars. Hein? En plus, je me rappelle même plus pourquoi je disais ça. Mon illustration. C'est ça. On n'apprend pas ça sur un banc d'église. Non, mais je parlais d'être endurci. Puis notre intelligence s'obscurcit. C'est quoi le rapport avec les oiseaux. Mais
que les enfants, il va falloir
qu'ils apprennent par eux. Ah oui, qu'ils apprennent par eux-mêmes puis qu'ils sortent hors du nid. Mais il faut qu'ils soient prêts. Les petits oiseaux n'étaient juste pas prêts. Fait que tu sais, c'est ça. OK, excusez.
Essayez pas ça de même.
Ouais, c'est ça. Puis OK, pour les enfants, là, ils étaient poussière, ils sont retournés à la poussière, ils n'ont pas d'âme, OK. J'espère qu'on parle.
Gentil.
Oui, c'est ça. C'est ça. Merci Sylvie, merci beaucoup. Ouais, c'est ça. On a été dans les proverbes, je vais vous dire par cœur, ça nous dit que, parce qu'on parle du fait que plus je m'endurcis, moins je fais confiance à Dieu, plus moins je comprends. Savez-vous que l'inverse est vrai aussi? Dans Proverbes 4, 18, ça dit que le juste, il marche dans la lumière, puis jusqu'à temps que, tu sais, c'est là que ça dit que jusqu'au point du jour, c'est comme plus tu marches dans la lumière, plus Dieu te donne la lumière, plus tu comprends les choses. C'est ça l'idée aussi avec ce qu'on a vu, que ceux qui cherchent l'éternel comprennent tout. Tout ce qu'on a à comprendre, Dieu nous amène de plus en plus de lumière, puis ah! Tout se place une chose envers l'autre. Fait que vraiment, la question ce soir, c'est comment j'impressionne Dieu? Est-ce que je l'impressionne par ma foi ou je l'impressionne par mon incrédulité? Puis l'idée, c'est pas essayer d'être un super héros, c'est juste, quand je fais confiance à Dieu, c'est ça que Dieu me demande. Ma marche qui produit du fruit, qui me fait comprendre les choses, qui me fait apprécier Dieu puis ses voies. Maintenant, je veux juste terminer avec les deux versets qu'on n'a pas encore considérés. Et c'est ma conclusion. Le petit miracle de la guérison de la belle-mère de Pierre. Ça dit, Jésus est rendu ensuite à la maison de Pierre, dont il vit la belle-mère couchée et ayant la fièvre. Et c'était probablement une fièvre qui pouvait être mortelle, OK? Il toucha sa main et la fièvre la quitta, puis elle se leva et le servit. Je vais terminer avec cette pensée-là ce soir. Ce miracle a un petit peu des allures de « en passant, petit miracle qui est juste pour remplir un petit bout dans notre Bible. » Tu sais, il n'y a pas grand-chose qui est dit. Tu vois ça, puis « OK, il a guéri, puis Asselet, puis enfant. » Tu sais, ça comme « oh, pas grand détail là-dessus. » Vous savez que il n'y a rien par accident dans la parole de Dieu. Le Saint-Esprit a voulu que ça soit court de même, puis que ça soit de même. Puis je pense qu'il y a un point à ça. On peut dire « c'est anodin. » Mais je pense qu'ici, on voit la simplicité. On a vu plus de détails avec cet homme qui là, il a tout exprimé, puis il y a beaucoup plus de détails là-dessus, puis on a même parlé du royaume de Dieu, puis il y a même des implications avec l'Église, avec tout ce qu'on a vu avec le centre. Mais ici, c'est juste, il va dans la maison, il guérit la belle-mère, puis après ça, elle sert. Mais c'est pas très compliqué, c'est pas très extravagant, puis il n'y a pas des... Mais je pense que le point de tout ça, c'est que ça souligne que Jésus, dans toute la simplicité, il peut même exercer des miracles. On n'a pas besoin d'être le super-héros de la foi puis quelqu'un comme le centenier. Même dans une situation banale, comme quelqu'un qui était malade de même, Jésus s'en occupe pareil. Il est allé là, puis il a guéri. Puis je vois aussi une autre chose aussi. C'est quoi le résultat? Elle guérit, elle se lève, puis elle le sert. Elle se lève, puis elle le sert. Vous savez que Jésus ne nous fait pas bénéficier de sa grâce, de sa bonté, juste pour nous autres, puis que ça reste dans un vase clos dans nos vies. Non. Dieu veut que ça aboutisse sur la reconnaissance, sur l'adoration, sur la foi qui le sert, lui. Dieu nous fait bénéficier de sa grâce pour que ça retourne à lui. Pas parce qu'il est égoïste, mais parce qu'il mérite tout ça. C'est le seul qui mérite toute notre adoration, notre service et notre dévouement. Donc, c'est ce qu'on a considéré ce soir avec l'étonnement de Jésus. C'est ce premier groupe de trois miracles. Et que Dieu puisse nous aider à prendre leçon de ça sur la marche de notre foi. Seigneur, on te remercie qu'on a pu s'arrêter avec ce passage ce soir et que tu nous enseignes, toi, Saint-Esprit, par des façons qui, des fois, ça nous dépasse. Des fois, c'est juste une petite chose comme ça qui est dans ta parole, qu'on entend. Et Seigneur, qu'on chérisse ces perles que tu nous donnes, parce que c'est pour toi. C'est grâce, c'est bienfait que tu déverses dans nos vies. C'est des investissements spirituels. C'est pour que tu sois glorifié, pour te faire paraître dans nos vies. Seigneur, qu'on réponde par la foi à ce que tu fais. Qu'on marche dans cette lumière de plus en plus grandissante jusqu'au point du jour. Qu'on ne soit pas sans porter de fruits, qu'on ne soit pas incrédule, mais qu'on croit. Seigneur, tu vois nos luttes, nos faiblesses, nos doutes. Seigneur, on invoque ta grâce, ta bonté, ta miséricorde dont on a parlé ce matin. Tu prends plaisir à cette miséricorde. Merci pour ça, Seigneur. On te prie au nom de Jésus. Amen. Amen.